Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
On bouffe ?
Tu bouffes ? Tu bouffes ?
Il y a quelques temps, on est allé au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le championnat de France de barbecue et on a profité de notre passage dans le sud pour enregistrer quelques épisodes loin de Paris. Et on pouvait pas venir dans la capitale de la Camargue sans parler de Camargue et plus généralement de la cuisine provençale. La cuisine provençale, on la visualise, on a tous le goût en tête au moment de l'évoquer, et pourtant, quand il a fallu préparer cet épisode, je savais pas trop comment la définir. Mais bon, quelque part c'est pas bien grave parce que j'avoue que c'est pas moi qui vais m'en occuper, je vais plutôt laisser des professionnels en parler à ma place. Deux générations de restaurateurs sont venus discuter avec moi entre deux épreuves du championnat, et chacun avait la même idée en tête. La cuisine provençale, c'est pas un plat, une façon de faire ou même un ingrédient. La cuisine provençale, c'est une idée, celle de cuisiner ce qui sort de terre à ses pieds, d'en faire honneur sans aller chercher des artifices de cuisson, des techniques complexes ou des produits trop jet-lagués pour être raisonnables. En deuxième partie, par exemple, est venu Grégory Brousse, chef au Mas de Pain, connu pour être un locavore radical, qui est venu nous raconter son parcours.
Quand c'est la saison des fraises, on fait du jus de fraises. Quand c'est là, ça commence l'abricot, donc c'est du jus d'abricot. Après, on passera au jus de pastèque, au jus de pêche. Voilà. Et ensuite, le jardin, ça dépend ce qui est cultivé dans le jardin. Donc, c'est moi qui choisis une partie des choses. Et puis, on ne sait jamais quand ça va être mûr. Ça veut dire que si vous avez 10 hectares de courgettes, vous pouvez faire des fleurs de courgettes tous les jours. Quand vous avez 50 pieds de courgettes, il y a des jours où vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est vraiment le jardin qui dicte ce qu'on va faire à manger.
Mais d'abord, j'ai pu discuter avec Roger Merlin, cuisinier, restaurateur et président du Conservatoire des cuisines du Grand Sud, qui s'attache à mettre en relation les bons chefs avec les bons producteurs et nous aider, nous consommateurs, à découvrir tout ce beau monde. Attaché comme personne à ce territoire, il était évidemment la meilleure personne pour commencer cet épisode.
La cuisine provençale, je dirais qu'il y a tout, évidemment tous les légumes. Il y a ensuite les huiles d'olive, les huiles végétales, notamment les huiles d'olive. Alors dans les huiles d'olive aussi, il y a des huiles en fruités verts, fruités noirs, enfin voilà, diverses variétés. Après, il y a bien sûr les poissons. Puisqu'on est en Camargue, on est en bord de mer, et tout le littoral est en bord de mer aussi. Et puis après, on a la viande de taureau. Ça, ce sont les produits, disons. Enfin, après, bien sûr, il y a d'autres produits. Déjà avec ça, entre les huiles d'olive, les vins aussi, et beaucoup de produits en bio.
Alors, on va revenir un peu plus en détail plus tard sur la cuisine provençale. Mais déjà, vous, quelle a été, pour parler de votre parcours, quelle a été votre première rencontre avec la nourriture ? Quel est votre premier souvenir au moment où vous avez eu une espèce de déclic en vous disant « Ah, c'est ça que j'aime bien ».
Vu mon âge, ça remonte il y a pas mal d'années. il y a pas mal d'années. Enfin, moi, j'ai toujours été élevé dans des hôtels. Donc, on était toujours dans des hôtels, dans des restaurants. Mes parents étaient hôteliers aussi. J'ai toujours vécu dans cette ambiance. Mais je crois que la cuisine provençale, elle a d'excellents produits. Après, c'est la mise en valeur qui se fait à travers les producteurs, à travers les chefs de cuisine, et qui est la plus importante.
Et comment ça s'apprend justement cette idée de mise en valeur ? Est-ce que c'est plutôt à l'école de cuisine ou plutôt dans la cuisine domestique, la cuisine des parents, des grands-parents ?
Je pense que c'est la cuisine domestique. La caractéristique des produits de Camargue, les gens qui font pour moi, la très bonne cuisine, c'est plus la recette est simple, mieux on met en valeur le produit. Si on complique avec plusieurs saveurs différentes, on peut mettre 4, 5, 6 saveurs différentes, après le palais a du mal à se reconnaître dedans. Et je pense qu'un seul produit, cueilli au bon moment, préparé dans le bon timing, c'est l'idéal. Et on n'a pas besoin d'en rajouter trop de choses.
Ça va être quoi du coup la préparation idéale ? Ça va être peut-être une plancha ou peut-être une cuisson très...
C'est simplement une cuisson courte. Une cuisson courte, il y a beaucoup de produits. On peut mélanger, par exemple, dans les légumes, des légumes crus, des légumes cuits. Ce qui fait qu'en texture de bouche, on va avoir des textures différentes. Mettre quelques herbes aromatiques dessus, on a une chance extraordinaire d'avoir plein d'herbes aromatiques ici. Un peu d'huile d'olive dessus, un petit peu de chlore de sel et le tour est joué. Mais surtout pas que ça attende. C'est-à-dire que la consommation qui va se faire au dernier moment, on va avoir des arômes en bouche, on va avoir un petit peu de croquant, ça va rester sur le palais, ça va d'abord sentir les choses. Il faut réapprendre à sentir les choses. Je crois qu'on a complètement perdu l'habitude. Moi, je fais des ateliers pour les enfants, on réapprend à sentir, à réutiliser le nez. Instinctivement, les animaux, première chose, ils sentent. Et après, ils mangent. Nous, on avale d'un seul coup, puis après on se dit, finalement c'était pas mal. Voilà. Mais ce que je veux dire, il y a tout un mécanisme, prendre le temps, manger en toute conscience, pour vraiment développer les arômes.
Quand est-ce que vous commencez à prendre la présidence justement du Conservatoire des Grands
Sud ? Le Conservatoire des Cuisines, c'est amusant parce qu'on a créé ça il y a 13 ans, 12 ans, 13 ans, et c'était venu au début tout à fait d'une manière impromptu, en ce sens que c'est la chambre de commerce qui recevait une délégation étrangère qui m'a dit, voilà, on voudrait faire montrer les produits de Provence. Je lui ai dit, prenez un traiteur. Bon, un traiteur peut venir, il fait de très bons, il y a d'excellents traiteurs, font d'excellents produits. Mais il m'a dit, on voudrait un peu plus. On voudrait quelqu'un qui communique derrière, qui puisse expliquer un peu les produits, l'origine. Parce que c'est important, si vous mangez un produit sans savoir ce que c'est, moi je fais des ateliers sur le goût dans lequel il n'y a pas de repère, bon, on est dans le flou. Après, s'il y a une indication dessus, et si on raconte l'histoire du produit, ça valorise le produit de ce qu'on va manger en bourse. Et ça, c'est énorme. Ne serait-ce que la rencontre, par exemple, ou d'un chef directement. Et là, on a un contact direct, on a plus d'informations. Ça valorise le produit.
Et donc ça, c'était en quelle année que...
Donc, il y a 13 ans maintenant, 13 ans.
Et ça a tout de suite été vous qui avez dirigé le...
On a démarré, simplement, on était deux. Maintenant, dans le conservatoire, on est 50. Entre essentiellement le parc de Camargue, parc des Alpilles, on est sur les deux parcs, avec 22 chefs et 28 producteurs.
Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Enfin, quelle est l'activité de
l'activité, déjà, c'est de référencer. Nous, l'intérêt pour nous, c'est de faire connaître les producteurs. Parce que ces producteurs, souvent, il y a des producteurs qui ont vraiment beaucoup de mal à vivre. Moi, j'en ai un qui s'est suicidé il y a 2 ans, parce qu'il n'y arrivait plus, pour diverses raisons. Et donc, ils sont dans des situations parfois dramatiques. Et ça, je pense, c'est important de les aider. Nous, on les aide dans le conservatoire, on les fait connaître. Et nous, à nous, derrière, de faire preuve d'imagination, de dire, bah, tiens, simplement avec des carottes, ou ça peut être n'importe quelle, une pomme de terre, qu'est-ce qu'on peut faire avec une pomme de terre? De manière à ce que le public puisse refaire ça chez soi.
Et donc, oui, c'est, il y a un restaurant? Un hôtel?
Non.
C'est juste...
Il y a 22... C'est une démarche personnelle. Ce sont les chefs de cuisine qui s'engagent. Ce n'est pas l'établissement. L'établissement, moi, ce qui m'intéresse, on le verra tout à l'heure avec Grégory, c'est l'engagement personnel du chef de cuisine. C'est la démarche personnelle du producteur ou du restaurateur qui se dit, moi, ça m'intéresse de faire connaître, de participer, de donner du temps, parce qu'on leur demande du temps aussi bénévole, de participer à ces actions qui peuvent être dans diverses animations.
Ça va être faire du lien entre les producteurs et les chefs, faire du lien entre le grand public.
Voilà, on va valoriser le produit, on va le faire connaître. On a un petit panneau aussi, un petit logo, on se fait connaître en disant, normalement c'est de la qualité. Et si la qualité ne tient pas, ils ne sont plus dans le guide.
Et c'est un guide qui référence les endroits où on mange de la cuisine provençale.
Voilà, avec 7 pages nutrition derrière, on a voulu joindre, on est les seuls à avoir fait ces 7 pages nutrition dans lesquelles on peut... initié à la nutrition, mais qui n'est pas de la nutrition marketing telle qu'on l'entend à la télévision tous les jours et tout. On ne peut pas vendre un pot de yaourt sans parler de nutrition. Ce que je veux dire, là, nous, on a des bases vraiment beaucoup plus scientifiques, avec des nutritionnistes qui font partie de l'association.
Et c'est quoi alors les quelques plats, vos plats préférés de la cuisine provençale?
Moi, j'adore le poisson, les légumes aussi. Après, je dirais que ça dépend de la saison. Ça dépend de la saison, simplement un simple poisson, simplement cuit, bonne température, pas longtemps, simplement un petit filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel dessus, un petit peu d'herbe aromatique juste au dernier moment, elle pourrait jouer, quoi, voilà.
Est-ce que la cuisine provençale, du coup, c'est pas une question de cuisine, mais plutôt de choix des produits, et après la partie cuisine est peut-être un peu celle...
Et la cuisine provençale, elle a beaucoup évolué. Traditionnellement, la cuisine qui se faisait au début, même au début du siècle, on voit dans les menus, simplement, c'était des menus qui étaient très très longs, les gens mangeaient des plats très très qui maintenant seraient considérés comme des plats lourds, entre guillemets, avec de la crème, avec beaucoup de plats, on mange d'une manière beaucoup plus diététique maintenant, disons, on mange moins de produits, mais ce produit, tant qu'à faire, il faut qu'il soit bon.
Et ça, j'ai l'impression qu'en tout cas, j'ai une vision passéiste de la cuisine provençale qui était beaucoup de mijotés, beaucoup de soupes, beaucoup.
Alors, il y a des plats mijotés, comme par exemple, le gardien de taureau fait traditionnellement, qui se faisait sur le coin de la cheminée, dans lequel, voilà, ça c'était une chose. Mais on peut la revisiter aussi, la revoir un petit peu, aussi la faire d'une autre manière aussi. Ça fait partie des générations de chefs aussi qui, eux, ont une autre vision, soit parce qu'ils viennent d'ailleurs et ils prennent le meilleur de ce qui vient d'ailleurs pour se dire, bah, tiens, moi je leur adapte comme ça.
Est-ce que vous avez l'impression que la cuisine provençale s'est modernisée et est devenue quelque chose de plus...
Elle a beaucoup... D'abord, les gens mangent d'une manière totalement différente. Maintenant, vous allez dans un restaurant, la plupart des restaurants vous proposent un verre de vin qu'on ne voyait pas avant. Plus digestif, pratiquement très peu d'apéritifs. Le menu de midi est un menu très léger, même dans les restaurants étoilés. Généralement, ce sont des menus très légers. Il y a les menus végétariens aussi qui se font aussi. Donc voilà, donc ça change, ça évolue.
Et si vous devez nous donner un plat que vous aimez bien faire, qui pour vous est pas forcément le plus représentatif, mais celui que vous préférez, celui
alors
que vous
aimez
faire de
la cuisine. Alors moi, je prenais simplement un produit de Camargue et du riz, parce qu'on a beaucoup de riz. Moi, je prenais un riz noir. Faut savoir que le riz noir, il existe depuis environ 10 000 ans. Donc c'est un riz qui est très, très ancien, qui est très bon pour la nutrition. Simplement cuit, trempé dans de l'eau, avec une petite herbe aromatique dessus, cuit avec un filet d'huile d'olive et des petits légumes crus qu'on va mettre au tout dernier moment dessus. Alors après, on peut rajouter un petit peu d'amandes grillées, des choses comme ça, mais simplement nature comme ça. On aura vraiment le goût du produit en bouche.
Et comment les gens ils peuvent retrouver vos partenaires du conservatoire
Alors, on a déjà ce guide qui est tiré à 22 000 exemplaires, qui est distribué gratuitement chez tous les membres du conservatoire. Plus après, on a un site, mais on n'a pas forcément mis des recettes. Sinon, on a nos téléphones qui sont en tête de liste. Ils nous passent un coup de fil, on leur enverra une recette. Et les chefs du conservatoire acceptent aussi, ça fait partie de la charte, de donner une recette quand un client vient chez eux, leur dit, écoutez, ça, dans la mesure où ils ont le temps, bien sûr, ils ne sont pas débordés. Je voudrais avoir un renseignement sur la recette. Généralement, ils communiquent.
Merci à Roger Merlin qu'on peut retrouver au Conservatoire des Cuisines du Grand Sud, où il cuisine et donne aussi des cours. Vous pouvez aussi vous procurer son guide des restaurateurs et producteurs, on mettra les infos sur le site de Nouvelles Écoutes. Et maintenant, c'est Grégory Brousse qui est venu discuter avec nous. Provençal d'adoption, il cuisine pour le restaurant de l'hôtel du Mas de Pain, en pleine Camargue, entre Istres et Arles. On dit de lui que c'est un locavore de l'extrême, qualificatif qu'il est même fier de revendiquer. Il ne cuisine que du local et que du très local même. Et comme le pays qui l'entoure, c'est la Provence, il connaît mieux que personne la cuisine des produits provençaux et même cette niche de la cuisine provençale qu'est la cuisine de Camargue.
Ma mère était professeure, donc du coup, dès qu'on avait des vacances scolaires, on descendait dans la région. Voilà quelles sont mes attaches provençales, même si j'ai attendu il y a cela 3 ans pour revenir, entre guillemets, même si je suis quand même un enfant de la banlieue parisienne avant tout, quand même.
C'est pendant ces vacances qu'est né un peu ton appétit, ton goût pour la cuisine provençale?
Alors, c'est même pas pendant les vacances, c'est que ma mère nous a toujours fait à manger depuis qu'on est tout petit. On n'a jamais eu... j'ai toujours été au marché avec ma mère depuis que je suis tout petit. Donc voilà, on allait au supermarché bien entendu, mais on allait au marché pour acheter des légumes bio, on allait chez le volailler, on allait tout ce genre de choses. Ma mère a grandi en Provence jusqu'à ce qu'elle ait plus de 20 ans, donc elle a été habituée à faire le marché systématiquement pour faire manger, quoi. Cuisiner exclusivement des produits frais, et l'été quand on descendait encore plus, c'est la pleine saison des meilleurs légumes, on va dire. Donc on cuisinait tous les jours avec ma mère, puisqu'on n'avait pas grand chose d'autre à faire à part faire à manger. Donc voilà.
Et du coup, c'est très tôt, en fait, t'as eu ce truc de cuisine provençale dans ton assiette, parce que de par les origines de ta mère.
Alors, comme le disait très justement Roger tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait. Il y a des recettes qui sont devenues typiquement provençales, mais on en oublie qu'avant tout, c'est une cuisine de produits, comme il l'a très bien dit, et qu'une ratatouille au mois de janvier avec des légumes qui viennent de Croatie, ça. C'est pas du tout de la cuisine provençale. Donc c'est vraiment ce qui fait que c'est de la cuisine provençale, c'est que c'est les légumes du moment qu'on poussait en pleine terre et qui sont cuisinés, les légumes qui passent pas dans une chambre froide et qui sont cuisinés tout le temps. Donc à partir de là, c'est ce que moi j'applique tous les jours au restaurant. Donc c'est pas nécessairement une cuisine qu'on pourrait qualifier sur le papier de provençale, mais tout ce que je cuisine vient d'à côté. Tous les légumes viennent du potager, ils sont cueillis et cuisinés. Les 3/4 du temps le jour même, donc après on les transforme de manière différente, avec plus ou moins d'influences diverses et variées, mais voilà, c'est la qualité du produit qui fait qu'on peut appeler ça de la cuisine provençale, à mon sens.
Tu dirais que la cuisine provençale, c'est une cuisine de terroir, vraiment, c'est-à-dire que ce qui va faire la cuisine, c'est ce qui sort de la terre directement, ou il y a...
Alors une cuisine de terroir, j'aime pas trop le terme, je dirais plutôt une cuisine d'homme, puisque derrière ces légumes qui poussent dans la terre, il y a des gens qui ont envie de bien faire les choses. Ça veut dire que c'est la même chose qu'en cuisine, hein. C'est très facile de passer un coup de téléphone, on vous livre des champignons coupés, surgelés, on vous livre des sauces en poudre, et c'est exactement la même chose pour les légumes. Avec les traitements qui existent aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des kilos et des kilos de tomates, mais c'est que de l'eau, qui n'ont aucun goût, et puis à côté de ça, il y a des gens qui ont envie de bien faire les choses. C'est une question de conscience professionnelle, en fait.
Tu penses qu'aujourd'hui c'est faire un effort que d'arriver à justement passer outre ces trucs industriels qui te livrent? Ce serait plus facile pour toi dans ton restaurant de...
C'est pas forcément un effort, hein. C'est une question de conscience. Moi personnellement, j'ai pas envie de faire des tomates qui ont grandi hors sol, goutte à goutte, qui ont pas de goût. Alors effectivement, c'est un effort de tous les jours, mais Mais enfin, je suis heureux dans mon travail et je pense que si j'appelais tous les soirs à 23h comme ça a été le cas quand j'étais à Paris, hein, même si je faisais très attention aux produits que j'avais, voilà, donc on commande ce qu'on veut quand on veut, on a ce qu'on veut, donc après, bon, entre guillemets, on laisse libre cours à son imagination, mais c'est tout le contraire, en fait, l'imagination, elle se développe quand on est dans la contrainte, entre guillemets, c'est-à-dire que bah, les tomates, on commence à en avoir dans le jardin, et ben voilà, donc on en voit sur les étals partout depuis 2 mois, on se doute bien que les tomates, voilà, elles sont sous serre chauffée, hors sol. Donc voilà, c'est la nature et les producteurs qui me disent ce que je vais devoir cuisiner. Donc il faut être encore plus imaginatif. On est un cas particulier parce qu'on a un hôtel, donc il y a beaucoup de gens qui mangent là tous les jours pendant une semaine. Donc quand vous avez, en ce moment, on a beaucoup d'haricots verts, de tomates et de courgettes, eh ben, faut que tous les jours les gens mangent des choses différentes, mais ils vont manger tous les jours des tomates, des courgettes et des haricots verts.
On parlera un tout petit peu plus tard de ton établissement, mais d'abord, toi, t'es parti, t'as fait tes études à Paris chez Ferrandi, c'est ça ?
Alors j'ai commencé très tard parce que j'étais un jeune, comme il y en a beaucoup partout en France, hein, c'est-à-dire qu'on nous explique que pour réussir, il faut absolument aller à l'école et que si vous faites un métier manuel, vous êtes un raté. Donc j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai travaillé, je pensais beaucoup à m'amuser et je suis tombé dans la restauration par hasard. En fait, j'ai commencé en étant serveur, j'ai commencé à 25 ans, quelque chose comme, ou un peu plus tôt, à 23 ans, il me semble. Et ben, au bout d'un moment, à force de voir des belles assiettes et de servir ces choses aux gens, j'ai eu envie de passer de l'autre côté du pass. Et donc, j'ai fait une formation avec des adultes. J'ai divisé mon salaire par 3. Mais c'est pas grave, c'était je découvrais quelque chose qu'on m'avait toujours vendu comme quelque chose de très difficile et de très ingrat. Alors que peut-être que si on m'avait conseillé, aiguillé là-dessus quand j'étais plus jeune, eh ben voilà, j'aurais fait les choses plus vite. Mais en même temps, c'est un parcours de vie comme ça. Donc j'ai commencé la cuisine à 28 ans, et ensuite tout va très rapidement. Des gens vraiment passionnés dans ce métier, il y en a finalement pas tant que ça. Des gens qui ont une autre expérience aussi de vie, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une cuisine à 15 ans et qui n'ont pas forcément voyagé. Et donc ont une vision assez on va dire centrée, et qui ont un peu des œillères. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire plein de choses avant et de vraiment faire la cuisine par réel choix. Donc je savais les concessions que j'allais devoir faire, mais
je pense que ça t'a aidé, ça, d'avoir justement un parcours un peu atypique dans le...
Ah, énormément, ça m'a permis de gagner énormément de temps.
Et quand tu finis tes études, tu vas tout de suite au mas,
ah non, pas du tout,
où il y a
non,
vraiment
non,
du temps du qui passe entre-temps
Il s'est passé 5 ans entre le moment où j'ai fini les études et je suis arrivé ici. Peut-être un peu plus, même 6 ans, 7 ans. Donc j'ai fait plusieurs maisons, alors pas de grande maison, j'en ai fait une. Je suis parti très rapidement parce que j'ai trouvé c'est un palace. J'ai fait la pré-ouverture d'un palace. J'ai servi de traducteur parce que c'est le seul à parler anglais pour un chef hongkongais. Et puis j'ai trouvé les gens extrêmement fermés d'esprit, justement. J'ai une petite anecdote là-dessus, je citerai pas le nom de l'hôtel, mais il y avait TF1 qui venait filmer avant l'ouverture et on s'est retrouvé à... Il y avait 5 cuisiniers chevronnés, hein, des gens qui avaient énormément d'expérience, avec exactement les mêmes consignes, exactement le même matériel, tout était pesé. Et donc, ils devaient faire un wok des nouilles sautées façon singapourienne. Et donc, tous ces cuisiniers qui avaient les mêmes consignes et les mêmes ingrédients ont fait 5 plats, mais totalement différents, en l'espace d'une minute. Donc, moi, j'ai trouvé ça totalement fou et extrêmement intéressant que le résultat soit si différent à 10 secondes près, quoi. Et puis, réflexion du chef derrière, qui a tout brûlé, qui a dit caméra off, de toute façon, on s'en fout complètement, c'est pas intéressant. Donc voilà, moi, c'est un milieu qui m'a pas du tout intéressé. Et puis, j'aime faire la cuisine pour tout le monde, pas pour les millionnaires. Donc, ouais. J'en suis vite parti.
Et quand est-ce que tu arrives ici, dans la région, et quand est-ce que tu travailles au MAS? Enfin, raconte-moi un peu comment tu es arrivé là.
Alors, en fait, j'avais une fille qui avait 1 an. Ça faisait un moment qu'on voulait partir avec ma compagne de Paris, puisque c'est pas une vie pour énormément de raisons. Et écoutez, j'ai cherché du travail. Enfin, ma femme a cherché principalement pour moi. J'ai rencontré le patron, donc Frédéric. Je l'ai rencontré une fois à Aix. Il est venu une fois à Paris. Et puis voilà, c'est une histoire de feeling. J'ai rencontré quelqu'un qui est à la fois chef d'entreprise, agriculteur, manager, cavalier, et quelqu'un qui défendait extrêmement bien son projet, qui était passionné. Donc, quand on rencontre un autre passionné, tout devient plus facile. Et j'ai fait mes valises, j'ai démissionné, j'ai rempli le camion sans avoir visité le lieu. Donc merci à ma femme et à ma fille d'avoir accepté le défi, parce que on arrivait, on savait pas où on allait être logé, je savais pas du tout où je mettais les pieds. Et puis la chance sourit aux audacieux, j'ai trouvé en quelque sorte, il y a toujours des points noirs, hein, mais un idéal de travail avec mon potager, avec une liberté de ton en cuisine qui est vraiment ce que je recherchais. Où voilà, mon idée, ça a été de faire une cuisine qui pouvait être exclusivement à cet endroit-là, donc pas faire de la cuisine de 5 étoiles avec du homard, du caviar, ce genre de choses, à faire du vrai luxe, en fait, donc les gens peuvent aller cueillir leurs propres légumes s'ils ont envie de le faire. Je vous avoue qu'ils préfèrent rester au bord de la piscine, mais voilà, c'est une possibilité. Et prendre ma voiture et aller chercher l'huile d'olive là-bas, aller chercher les poulets là-bas, aller chercher les coquillages là-bas.
Tout de suite, tu dis en arrivant que tu vas vraiment utiliser, parce que tu peux me le raconter, mais en fait, t'as une cuisine, t'es un extrémiste locavore, on peut dire.
Exactement. Donc, on fait plus de chocolat, on fait plus de vanille, on fait plus aucun produit de l'industrie agroalimentaire. C'est surtout ça qui est très 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 important. Hormis le sel et le sucre, et encore même pas, le sel vient de la fleur de sel de Camargue, donc voilà. Hormis le sucre, c'est vraiment le seul produit qu'on n'arrive pas à remplacer. Ça s'est passé petit à petit, puisque encore une fois, il faut rencontrer les bonnes personnes. Donc je remercie encore Roger. Grâce au Conservatoire des Cuisines, j'ai pu rencontrer des gens qui me permettent de faire ça à l'heure actuelle. Mais c'était déjà la première étape, c'était éliminer les produits industriels. Ça a été la plus grosse étape. Et puis petit à petit, on trouve des produits de remplacement. On fait moins de produits, mais par contre d'une qualité exceptionnelle. Donc on a moins besoin de travailler dessus.
Vous êtes combien, tu penses, en pourcentage de chefs dans France à faire avoir cette espèce de...
Alors, j'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Alors, je sais que c'est du luxe, hein, également, puisqu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient le faire, mais qui peuvent pas le faire. Hein. Je dis pas que j'aide pas la pierre à ceux qui le font pas. C'est vraiment du luxe. Donc, je sais qu'il y en a de plus en plus, mais objectivement, je serais incapable de le dire. Après, il y a beaucoup de restaurants gastronomiques qui le font, qui vendent tout ça à des prix exorbitants. Voilà. Moi, le but, c'est de faire la même chose à un prix acceptable. Un prix acceptable.
Qu'est-ce que tu trouves autour de chez toi comme légumes, comme fruits, comme produits en général?
Grosso modo tout. Alors les fraises, quand c'est le début de la saison des fraises, là on commence à faire de l'abricot. Donc au petit déjeuner, en fait, on a arrêté le jus d'orange parce que c'est une aberration totale. Donc quand c'est la saison des fraises, on fait du jus de fraise. Quand c'est là, ça commence l'abricot. C'est du jus d'abricot. Après, on passera au jus de pastèque, au jus de pêche. Voilà. Et ensuite, le jardin, ça dépend ce qui est cultivé dans le jardin. Donc, c'est moi qui choisis une partie des choses. Et puis, on sait jamais quand ça va être mûr. Ça veut dire, si vous avez 10 hectares de courgettes, vous pouvez faire des fleurs de courgettes tous les jours. Quand vous avez 50 pieds de courgettes, il y a des jours où vous pouvez pas. Donc voilà, c'est vraiment le jardin qui dicte ce qu'on va faire à manger. Et après, on a toutes les choses possibles et imaginables. Après, la citronnelle pousse ici. Donc c'est très bien parce qu'il y a énormément de moustiques, mais voilà, quand je disais que c'est la cuisine provençale, c'est une cuisine de produits, j'utilise de la citronnelle sans prétendre faire de la cuisine asiatique, bien entendu, hein. Je fais de la cuisine française avec des ingrédients importés de l'étranger mais qu'on poussait ici.
Oui, c'est juste des idées d'ailleurs, mais que tu essaies quand même d'avoir toujours un truc qui puisse être, que tu fais pousser en fait.
Exclusivement, je vous dis, bien sûr, on achète des choses à l'extérieur, les pommes de terre, les carottes, mais qui viennent de la région également. Hein. Mais voilà, si je trouve pas un produit dans la région, tout simplement, je le travaille pas. J'ai mis du temps à trouver des pigeons. Il y a des pigeons des Cossières de Nîmes juste à côté qui sont exceptionnels. J'en ai pas tout le temps parce qu'ils sont extrêmement demandés. Mais quand j'en ai pas, je fais pas de pigeons et puis c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Les gens, justement, comment ils répondent, les clients, en fait, ils entendent ce discours?
Alors, ils l'entendent plus ou moins bien, surtout pour le jus d'orange le matin. Ça a mis un peu de temps à ce qu'ils l'acceptent. Après, on a, des hôtels 5 étoiles où il y a du jus d'orange au petit déjeuner, je dirais qu'il y en a 99,99999% des hôtels où il y a du jus de fraise au petit déjeuner frais, il y en a très très peu, donc les gens l'acceptent très très bien finalement. Il suffit de leur expliquer notre démarche très très bien et tout le monde comprend une fois qu'on leur a expliqué. Voilà.
Si tu devais citer un aliment par saison en Provence, ce serait lequel? Un produit, un légume ou un produit, peu importe, mais quelque chose qui est vraiment caractéristique. J'imagine que l'été, ça peut être la tomate.
Ouais, c'est les tomates, je pense que de maintenant, on va dire de début juin ou mi-juin, tout dépend comment c'est poussé, jusqu'à octobre, novembre, tout dépend les conditions climatiques, mais ça peut aller très très loin. Voilà.
Déjà, et après, ça vous couvre, si dire l'automne.
Ah, l'automne, après, c'est les mêmes légumes qui poussent partout. Hein.
C'est vrai.
À partir d'un certain moment. Non, après, non, il y a toutes les variétés de courges. Après, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, moi, à partir de l'automne. Ouais, toutes les courges. Les courges, les potimarrons, les courges spaghetti. Enfin, il y a une variété incroyable différente. En plus, comme c'est très sucré, ça peut être utilisé en dessert.
Et en hiver, du coup, parce que j'ai l'impression que les gens, ils disent oui, la tomate, tout le monde entend la tomate, mais en hiver, les gens, ils ont plus de problèmes à trouver des légumes qu'ils aiment bien. Toi, c'est quoi ton légume préféré d'hiver?
C'est les conserves de tomates que je fais, que je conserve jusqu'à l'hiver. Non, j'aime beaucoup, le céleri, tous les légumes de conservation, du moment quand à la base ils sont très bons, et puis après l'hiver, on consomme des pickles, on consomme des légumes fermentés, on consomme des sauces tomates qu'on a fait en bocaux.
Et que là on parle de cuisine provençale, mais j'ai l'impression qu'il y a même une espèce de niche de la cuisine provençale qui serait la cuisine camargaise. Parce que je sais que toi, en plus, tu habites ton restaurant et l'autre restaurant hôtel est à côté d'un éleveur de taureaux, c'est ça ?
Ah non, c'est le propriétaire de l'hôtel qui est également éleveur de taureaux et risiculteur. Donc la boucle
est bouclée. Donc t'es déjà en plein dedans, quoi. T'es vraiment dans le. Exactement. Comment tu définirais la cuisine camargaise au sein de la cuisine provençale ? Justement, j'imagine que le taureau est beaucoup plus présent.
Comme l'a très bien dit Roger tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui a énormément évolué. Après, il faut tout simplement faire de la géopolitique, entre guillemets. Hein. On est à 25 minutes d'Arles en voiture. Il faut très facilement imaginer qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de voiture. Donc, il fallait une journée, grosso modo, pour aller à cheval à Arles. Donc, c'est une cuisine de produits de conservation, donc des anchois, l'ail, puisque l'ail se conserve très bien. Voilà les produits qui sont utilisés. C'est un endroit d'agriculteur ou de maladier, donc c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire à manger. Donc c'est l'origine des mijotés, hein. C'est pas que les gens aimaient ça. C'est non seulement que c'est des morceaux pas chers, mais que vous les mettez le matin au coin du feu et vous revenez le soir, c'est cuit. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Et des coquillages aussi, puisqu'il y a des... Il y a probablement un endroit unique en France, une côte méditerranéenne unique en France, hein, qui va de des Salins de Giraud... Jusqu'au Sainte-Marie, il n'y a aucune habitation, et des Sainte-Marie jusqu'au Gros du Roi, c'est absolument unique. Donc il y a énormément de coquillages. Donc voilà, je pense que c'est un endroit isolé. Donc c'est pour ça que c'est en ça que c'est différent de la cuisine de provençale, où c'est beaucoup de choses de conservation, beaucoup de monde fait les potagers. Mais il y a 50 ans, c'était des marécages difficiles d'accès. Parce que je vous dis encore une fois maintenant, quand vous oubliez le pain, c'est 25 minutes de voiture. Ouais. Voilà.
Et le taureau, alors moi, je viens souvent je viens de Marseille, enfin, je viens du Sud, donc j'ai l'habitude, je viens souvent en vacances ici. Mais c'est vrai que je me dis que pour tout le reste de la France, c'est quelque chose de très bizarre d'imaginer qu'on mange du taureau.
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une image péjorative du mot taureau. Parce que quand on parle de taureau, les gens pensent à la corrida. Donc ce n'est pas les mêmes races de taureaux déjà. C'est des taureaux espagnols qui ont combattu, donc sont pleins d'adrénaline et qui ne sont pas castrés. Contrairement aux taureaux camargues, qu'on appelle taureaux camargues, mais qui dans 95% du temps sont des bœufs puisqu'ils sont castrés. Donc... Après, on va dire que quand on mange de la charolaise ou de la limousine, après je défends mon steak. Hein, donc les propos sont peut-être un peu déformés, mais
y a pas de souci.
On va dire qu'on mange des obèses, des animaux en surpoids, qui ont du mal à courir. Quand on mange un taureau camargue, on mange un sportif de haut niveau. Donc c'est une viande très peu grasse, qui a un goût extraordinaire. C'est des animaux qui sont en totale liberté. Donc c'est vrai que c'est pas trop mis en avant et que notamment du fait de la course à la cocarde, de la corrida, beaucoup de gens, notamment des gens qui sont pour la protection des animaux, disent ah oui mais le taureau, alors que c'est des animaux qui sont dehors toute l'année, il n'y a pas d'insémination artificielle, c'est des animaux sauvages, hein, semi-sauvages, qu'on peut approcher que par cheval. C'est des animaux qui sont nourris exclusivement de foin qui doit être produit dans la région d'appellation de l'AOP. C'est la première AOP en Europe de viande de race. Donc c'est une viande qui est extraordinaire, qui est très peu connue parce que il y a pas de standard d'abattage. Vous savez, les chefs, ils veulent des filets qui font 3,5 kg et pas 100 grammes de plus ou 100 grammes de moins. Donc là, c'est à nous de nous adapter. Mais quand on veut travailler des beaux produits, c'est ça. Donc on va avoir des taureaux qui font 300 kg de carcasse, on va en avoir d'autres qui font 250. Donc tout est de taille différente, donc ça demande beaucoup de travail de notre part. Mais on a un produit qui est très très bon pour la santé. Donc il y a l'aspect nutritionnel qui est important et en termes de goût qui est unique.
Voilà, est-ce que c'est pas l'avantage de la niche quelque part ? C'est qu'en fait, l'industrie a pas trop eu le temps de happer cette chose et en fait le taureau reste un produit qui est cultivé en plein air qui est...
Alors tout à fait, alors déjà ça fait partie du cahier des charges de l'AOP, la production est relativement faible et il faut se rappeler premièrement que les maladiers, la raison pour laquelle ils élèvent ces taureaux, c'est la course à la cocarde, c'est vraiment quelque chose de pour les passionnés et donc accessoirement pour vivre, ils vendent leurs taureaux, et ça c'est quelque chose de principal dans le sens où la raison de l'élevage chez la course, c'est pas la commercialisation, ce qui fait que ça reste un circuit relativement préservé de l'industrie.
Et pour finir, on mangeait quoi aujourd'hui au MAS ?
Alors ce soir, alors le samedi soir, on essaye de faire un menu, le menu du manadier, on a appelé ça, c'est un menu traditionnel. Traditionnel entre guillemets, mais on essaie de moderniser. Donc en amuse-bouche, il y a une anchoyade modernisée, bien entendu, avec les premières tomates du jardin d'ailleurs, avec des anchois français, des guillères. Ensuite, il y a une équivalent, pas une bouillabaisse, hein, mais d'une soupe de poisson avec du loup sauvage et des fenouilles confits. Et en plat principal, bien entendu, c'est du taureau de notre propriété, avec un jus de taureau, alors c'est cuit au barbecue, avec une purée de picholines qui sont des olives d'à côté d'ici, et une garniture de riz rouge qui est cuit dans un bouillon de légumes, et ensuite des légumes sautés avec de la moelle de taureau pour remplacer la matière grasse, des légumes de notre potager, donc là ça sera principalement des haricots verts et des courgettes. Voilà. Super. Et en dessert, alors ça c'est un point important que j'ai pas abordé, c'est que pour être en accord avec avec la Camargue, on a décidé de bannir complètement les produits laitiers, notamment parce qu'on n'arrive pas à trouver des choses qui ne sont pas industrielles. Donc on n'utilise ni beurre, ni lait, ni crème pour la pâtisserie, ni pour la cuisine. Du coup, on fait mon dessert préféré étant le millefeuille. J'ai essayé de voilà, faire quelque chose de semblable à base de tuiles de riz sucré, et donc la crème pâtissière est faite à base de lait d'amande et de praliné aux amandes, des amandes qui viennent de Garon. Donc voilà, voilà ce qui est mon interprétation personnelle du millefeuille. Alors provençal entre guillemets, oui, étant donné que les œufs viennent de Provence, le sucre pas tout à fait, et les amandes et le reste, riz voilà, viennent d'ici. Voilà. Voilà un exemple de cuisine provençale entre guillemets moderne, des amandes de Provence, voilà, pas des amandes d'Amérique ou d'Espagne, et du riz de Provence pour faire un dessert.
Merci à Grégory Brousse et à Roger Marlin d'être venus parler au micro de Bouffon. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. À la semaine prochaine !